R22,
tout monde,
antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète?
Histoire, création, politique.
Donc, nous allons poursuivre avec le panel intitulé Entrelac. Nous allons écouter les interventions d'Abigail Long et de Luigi Magno. Autour de la poésie française, notamment sur les œuvres d'Anne Portugal et de Suzanne Doppelt que vous avez pu entendre lundi soir et lecture que vous allez pouvoir réécouter à partir de la semaine prochaine sur la radio R22. Et d'abord, donc, nous allons écouter Luigi Magno, qui est docteur en lettres modernes à l'UNS de Lyon et à l'Université Sapienza de Rome. Maintenant, il enseigne la littérature française à l'Université de Rome 3. Et après une thèse consacrée au rapport entre l'écriture et l'image chez Denis Roche, il a dirigé un volume sur Denis Roche. Tout récemment, il a dirigé un volume intitulé « New Objectivist nouveaux objectivistes », dans lequel, d'ailleurs, il y a un article consacré à Suzanne Doppelt. Et il est aussi l'auteur d'essais sur de nombreux poètes contemporains, de Francis Sponge, Emmanuel Occart, Nathalie Quintane, Édouard Levé, Jérôme Gamme, Christophe Anna, pour énumérer les plus importants. Donc, je passe la parole à Luigi pour son intervention.
Merci beaucoup, Jofia. Merci à toutes les organisatrices. Et merci à toutes et tous les collègues et les amis aussi du comité scientifique pour cette invitation. Dans la diversité dont relève le travail de Suzanne Doppelt, la notion de mécanique, donc de mouvement, me semble être absolument centrale. En ce sens, tout son travail pourrait se lire comme une longue suite de multiples ajustements opérés à partir de, voire depuis, ou compte tenu de ce que je viens de nommer une mécanique, mais que je devrais peut-être plutôt appeler des mécaniques. Que faut-il entendre par mécanique chez Doppelt? La question est très complexe. Pour simplifier un peu à outrance, je dirais que le mot mécanique renvoie à la fois à la discipline dite mécanique, donc à cette discipline qui se place entre les physiques et les mathématiques, et qui donc s'occupe des corps et des systèmes physiques et de leur équilibre. Mais le mot mécanique renvoie aussi en même temps à ce qu'on pourrait définir comme une sorte de théorie des machines. La présence des machines chez Doppelt me semble être aussi importante, voire par exemple la présence des automates. Mais troisièmement, cette mécanique renvoie aussi parfois... peut être utilisé comme synonyme de mécanisme, c'est-à-dire comme un dispositif visant à produire des mouvements, ou à le transmettre, le transformer. Donc ces mécaniques, je crois, informent à la fois les sujets dont Doppelt s'occupe que les formes de ses travaux. Et dans ce deuxième sens, ces mécaniques sont ce qu'on pourrait appeler une véritable technique ou des techniques. On pourrait alors décrire ce travail technique ou ces techniques comme une suite d'opérations de tressage. Et je reprends le mot « tressage » à Pierre Alféri et Olivier Cadio, qui l'utilisent dans le deuxième numéro de la RLG. Et cette reprise, évidemment, ne va pas sans une utilisation très libre de ce concept que j'adapte ici d'une façon et dans une perspective absolument générale. Je disais donc opération de tressage qui, par déplacement, addition, soustraction, multiplication cumulée, évite l'illusion d'une voie. C'est ce qui se passe abondamment chez Anne Portugal. Abigail peut-être nous en dira plus tard. Voir donc ce tressage multiplie et croise des voies, ainsi que des modèles discursifs, des disciplines, des savoirs, ça qu'on puisse vraiment nettement les distinguer, les séparer, les partager, les considérer comme fonctionnant par cloison étanche. Et ces opérations de tressage alimentent une sorte de fluidité. C'est ce que Agnès Disson a défini comme, je la cite, un flux ininterrompu de la phrase, à laquelle participent un certain nombre d'opérations pratiques, aussi bien sur le niveau stylistique qu'au niveau typographique. Je n'ai pas le temps de développer sur ce point non plus, mais il suffirait de regarder déjà la typographie des textes de Suzanne de Perthes pour se rendre compte que, par exemple, rarement un texte, en début de la page, commence par une majuscule. Rarement un texte, à la fin de la page, se termine par un point. Tout comme on peut remarquer, il suffit de lire un ou deux livres de Suzanne de Perthes pour remarquer que presque systématiquement, elle renonce au nombre des pages, ce qui crée évidemment une espèce de enfin, ça complique complètement le repérage du lecteur à l'intérieur de ces textes. Et puis, ça va de soi, je ne nomme pas les dispositifs texte-image qui circulent dans tous ces travaux et qui ne sont pas du tout des dispositifs de type illustratif ou de type mimétique. Dans tout ce qu'elle appelle vertige ou dans ce continuum mécanique, je crois que Suzanne de Perthes utilise aussi des stratégies ou des moyens pour arrêter ou en quelque sorte pour fixer quelque chose à l'intérieur de tout ça. Et ces opérations qui permettent de fixer quelque chose, je les appelle dans mon titre des ajustements, et j'en ai repéré au moins deux, enfin en tout cas deux typologies d'ajustements. D'une part, il y a des ajustements de type ancrage. D'autre part, il y a des ajustements que j'appelle des ajustements de type balise. Alors, sur les ancrages, je ne vais pas revenir parce que je crois que ces ancrages sont d'une évidence presque aveuglante. Et ces ancrages renvoient à ce qu'on a pu nommer une pratique de l'intertextualité. Toujours Agnès Disson parle, pour les travaux de de Perthes, d'une intertextualité foisonnante. De Perthes, on peut dire, écrit systématiquement, enfin, on pourrait dire même que tous les travaux de de Perthes se prévalent systématiquement d'un ancrage. Ancrage a une source. Et cette source est très souvent une source livresque, voire une source savante, qui peut relever de la littérature, Gombrowicz, de la philosophie, les présocratiques, d'une littérature, voire de livres tout à fait populaires, comme la Zmorfia, par exemple. Mais ces références peuvent évidemment porter aussi sur des images, sur des iconographies diverses et variées. Je m'intéresserai plutôt aujourd'hui à ce que j'appelle des ajustements de type balise. Et ces balises fonctionnent un peu, là aussi je simplifie parce que ça ne va pas de soi ces concepts-là, ces balises, je disais, fonctionnent un peu comme une sorte d'autotextualité. Ce sont des opérations qui se font à l'intérieur des textes de Suzanne de Perthes, enfin que de Perthes opère d'un texte à un autre. Ce que je propose donc d'appeler des ajustements balises renvoie à des opérations d'écriture qui, à travers une série de reprises, de répétitions, de retours, qui s'effectuent d'un livre à un autre, voire d'une page d'un livre à une autre page du même livre, eh bien, ces balises instaurent bien évidemment des repères. Et ces repères, on peut les voir d'abord sur un plan de type syntaxique. Pour cela, il suffirait, que sais-je, de suivre dans ses premiers livres, les 36 chandelles ou dans Totem, par exemple, le retour des textes sur le purgatoire. Ou encore voir l'une des premières pages du Pré vénéneux pour se rendre compte que dans la même page, Suzanne de Perthes ne fait que réécrire le même texte deux fois, ou presque. En tout cas, il y a un certain nombre de répétitions qui est un nombre copieux. Je vais m'attaquer plutôt à ce que j'appelle des balises de type, non pas syntaxique, mais de type sujet ou noyau thématique, ou des balises qui se font à partir de la reprise et de la répétition de certains motifs. Alors, les mots motif, sujet, noyau thématique ne sont pas tout à fait satisfaisants, parce que souvent, ces balises ne fonctionnent pas vraiment comme ça, mais pour faire simple, j'utiliserai le mot motif, mais si vous voulez, on pourra en reparler. Le premier motif qui m'a vraiment extrêmement turlupiné chez Suzanne de Perthes est le motif de l'homo bulla. Je prononcerai le latin un peu à l'italienne, je m'en excuse. Et la présence de l'homo bulla circule déjà, est une présence déjà abondante dans les premiers textes de Suzanne de Perthes. Le Pré vénéneux, tout comme le monde des beaux, il est rond, voire la plus grande aberration. Et avec cet homme bulle, c'est l'image de la bulle, donc comme air et eau en même temps, avant que ce soit une bulle de savon, hein, parce que la bulle de savon, ça sera Chardin, rien à cette magie, mais d'abord, c'est une bulle qui existe avant l'invention même du savon. Et avec donc cette bulle faite d'eau et d'air, cette bulle de savon, nous avons aussi des ballons qui traversent les pages d'Opète. Et quand je dis qui traversent les pages, il faut entendre cela aussi bien par rapport au texte que par rapport aux images. Très souvent, Suzanne d'Opète photographie des formes qui renvoient à des bulles ou à des ballons. Pour comprendre ce travail sur les bulles, il faut évoquer une certaine iconographie, tout comme, je crois, toute une tradition littéraire et philosophique. Car Chardin ne suffit pas, à lui tout seul, à comprendre ce réseau d'images qui sont des images textuelles et photographiques. On pourrait alors imaginer d'Opelte relire, par exemple, le début du De Re Rustica, un livre de Varron, ce savant, écrivain et magistrat, qui donc utilise cette image dans une plus ample réflexion sur la notion de senectus. Varron écrit au début de Re Rustica, je le cite, « Quod ut dicitur si homo est bulla, eo magis senex ». C'est-à-dire « car, comme on dit, si l'homme est une bulle, il est d'autant plus quand il est âgé ». Varron, dans cette page, en évoquant cet homme comme une bulle d'eau, ne fait que reprendre là une expression proverbiale qui était le « homo bulla est », qui avait connu une certaine fortune dans le monde ancien et qui s'est destiné par la suite à une nouvelle fortune dans la littérature moderne, notamment à partir des adages de Erasme. Et pour venir à cette première modernité, celle que Erasme en quelque sorte ouvre, donc surtout à partir du XVIe et du XVIIe siècle, ce topos de la bulle va rebondir dans le monde de la peinture et va nourrir toute une iconographie de l'homme bulle et de la bulle tout court. On imagine alors d'Opelte, en même temps qu'elle relie ou lit Varron, en même temps qu'elle relie aussi peut-être Lucien de Samosate, chez qui, dans Caron ou Les Contemplateurs, on retrouve cette image de la bulle. Eh bien, je disais, on imagine d'Opelte regarder et scruter la peinture flamande du XVIIe siècle et se pencher donc sur l'ensemble de l'esthétique dont relève cette peinture. Et cette image de Suzanne d'Opelte qui regarde et scrute cette peinture, bah, nous en avons une trace d'une évidence là aussi aveuglante d'un Vax Spectra, un livre qui se construit autour de cette boîte d'optique de Samuel van Hoogstraten et donc de sa poétique, si j'ose l'appeler comme ça. La diffusion du motif pictural de l'homme en boule et de la bulle de savon coïncide donc avec une nouvelle conception de la peinture. Celle-ci, en effet, par le fait qu'elle se fonde sur une expérience sensorielle comme la vision, est un moyen fondamental de connaissance. Ainsi conçu à l'époque, donc parmi les peintres flamands du XVIIe siècle, la peinture rejoint ce qu'on appellerait aujourd'hui la science expérimentale. Je rappelle que c'est Kepler à l'époque qui va utiliser le mot pictura pour définir l'image rétinienne renversée. Et il le fait dans un enchevêtrement entre vision et représentation picturale. C'est à partir, je crois, de là que nous voyons s'affirmer ce paradigme qui est le paradigme du ut pictura ita visio, paradigme qui va s'opposer, ou en tout cas qui va survivre, évoluer à côté de l'autre paradigme, un paradigme beaucoup plus narratif, celui de la peinture comme d'une poésie. Plus particulièrement, ce qu'on somme dans ce cadre, l'assimilation de la peinture à la science optique. La peinture devient un instrument optique, donc scientifique, qui a le but de produire des connaissances autour des phénomènes du monde. C'est la peinture qui se livre alors à de véritables enquêtes scientifiques à travers des instruments d'optique tels la camera obscura ou bien les boîtes d'optique et les miroirs. Je nomme là, avec la camera obscura, les boîtes d'optique et les miroirs, que des instruments qui jalonnent les pages et les photographies de Suzanne d'Opelte. Bref, le tableau se veut à la fois un miroir du monde et un instrument de connaissance, mais cette connaissance ne manque pas de produire tout aussi bien quelque chose qui est de l'ordre de l'épistémologie ou d'une qui produit quelque chose de l'ordre de l'épistémé, mais en même temps, cette pratique produit aussi quelque chose de l'ordre de l'hallucination. Pour preuve, cette citation que je tire de Samuel von Hoogstraten, de son introduction à l'école supérieure de la peinture, et qui dit, je cite, « Une peinture parfaite, en effet, est comme un miroir de la nature. Elle fait que des choses qui n'existent pas puissent exister, et trompe d'une façon permise, amusante et louable. » Or, la bulle dans cette tradition n'a pas seulement affaire à des instruments de connaissance, des instruments de connaissance du monde, bien évidemment, parce que la bulle, en même temps, est convoquée dans l'image même du monde. C'est ce que fait Suzanne de Pelt et c'est ce que font les peintres flamand de l'époque, quand, par exemple, il s'intéresse à des représentations du monde végétal, des insectes, des animaux, de l'anatomie du corps humain, ou bien encore des mirabilia. Comme on vient de le voir, dans l'iconographie de la bulle et de l'homme au bout là, dans la modernité, Chardin, et je reviens à Chardin, n'est qu'un point possible de passage. Et ce passage Chardin acquiert des résonances inattendues, voire il en produit, quand on le replace dans son siècle à l'aide ou par le biais du travail de de Pelt sur le XVIIIe siècle. C'est en croisant toutes ces références et dans ce sens, et compte tenu de cette association entre le motif de la bulle et la réflexion épistémique et épistémologique, que l'on peut imaginer un autre acteur, peut-être caché ou peut-être moins cité, moins explicité, mais qui pourrait compter parmi les lectures possibles de Suzanne de Pelt. J'imagine alors là, Suzanne de Pelt, après avoir relu Varron, Lucien, avoir regardé la peinture flamande, du XVIIe, j'imagine Suzanne de Pelt, lectrice de la Métrie. En effet, dans le deuxième chapitre de son système d'Épicure, la Métrie écrit, je cite, Je ne puis voir ces enfants qui, avec une pipe et du savon battus dans de l'eau, s'amusent à faire ces belles vessies colorées que le souffle dilate si prodigieusement, sans le comparer à la nature. Il me semble qu'elle prend comme eux, sans y songer, les moyens les plus simples pour opérer. Il est vrai qu'elle ne se met pas plus en dépense pour donner à la terre un prince qui doit la faire trembler que pour faire éclore l'herbe qu'on foule aux pieds. Un peu de boue, une goutte de morve forment l'homme et l'insecte. Et la plus petite portion de mouvement a suffi pour faire jouer la machine du monde. Et dans le chapitre suivant, et je m'arrête à ces deux chapitres-là, je cite, « Les merveilles de tous les règnes, comme parlent les chimistes, toutes ces choses que nous admirons, qui nous étonnent si fort, ont été produites, pour ainsi dire, à peu près, par le même mélange d'eau et de savon, et comme par la pipe de nos enfants. » Les détours de lecture pourraient évidemment se multiplier, je m'arrête là pour une question de temps, mais il suffit de ces dernières citations, je crois, de la Métrie, pour mesurer combien, à travers l'image de la bulle de savon, on rejoint toute une vision du monde, voire une véritable physique du monde, qui se fonde sur ce qu'on pourrait appeler, ou ce que je propose d'appeler, un monisme matérialiste. Ce monisme matérialiste, chez de Pelt, va des présocratiques jusqu'à Épicure, via peut-être la Métrie et pourquoi pas via peut-être du Lucrèce, mais ceci serait à vérifier. De ce monisme matérialiste, de Pelt fabrique évidemment une image toujours hallucinée, défaillante, coincée, toujours perturbée et comme une image enrayée. Mais ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir montré, je l'espère, combien ces passages et combien ce travail de balise que Suzanne de Pelt fait dans ses travaux permet de relire parfois certains livres de Suzanne de Pelt dans une autre optique. Si on, par exemple, se limitait à lire rien à cette magie comme une sorte d'ekphrasis et comme un texte qui se crée un regard du tableau de Chardin, cela serait une interprétation possible, mais elle n'est pas la seule. Et je crois que ce système de balisage permet des relectures ou permet d'amplifier ou de créer des expansions à partir de certains livres qui ont, en tout cas, une certaine autonomie. Même discours pour Vague Spectra, par exemple. Est-ce que j'ai encore un peu de temps, Jofia? Je n'ai pas compté. Juste.
Oui.
Merci. Juste un petit mot sur la deuxième balise qui m'a intéressé. Ça sera beaucoup plus court. C'est l'image de la mouche. La mouche est une présence presque obsédante, systématique dans les textes de Suzanne Doppelt. Et cette mouche revient aussi bien dans des passages de certains de ses livres, voire presque tous ses livres. Cette mouche revient comme véritable sujet de l'un de ses livres. C'est La quatrième des plaies vol. C'est un livre de 2004, paru chez Inventaire Invention. Où là, je crois, la mouche a un véritable rôle de sujet. Mais cette mouche revient aussi sous forme d'une anthologie littéraire. C'est l'anthologie que Suzanne Doppelt a publiée en 2013 chez Bayard dans cette collection, d'ailleurs, qu'elle dirige, le Rayon des curiosités. Les commentateurs qui se sont penchés sur cette présence de la mouche, qui est une présence tout à fait évidente, ont toujours ou presque systématiquement souligné combien la mouche était assimilable ou est assimilable chez Doppelt à son système de vision. En effet, Suzanne Doppelt insiste beaucoup sur le système de vision de la mouche. Il suffirait de reprendre La quatrième des plaies vol pour mesurer ce que j'appelais des ajustements de balises au niveau de la langue. On pourrait lire dans ce livre, je le cite à la page 8, « Son œil à facettes, un miroir convexe, capte toutes les intensités. Et là, une image mosaïque du monde. » À la page 14, on peut lire « Et là, une image électrique du monde. » À la page 20, « Sans aucun mouvement, et là, une image panoramique du monde. » Et à la page 24, « Et là, une image aveugle du monde. » Or, il faut dire que la mouche n'est pas que vision, n'est pas réduite à sa vision, enfin, pas uniquement réduite à sa vision. Parfois, je dirais même très souvent, Doppelt associe la mouche à la bulle, voire à l'homme bulle. Et je me suis demandé donc pourquoi, comment, par quel biais, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. Eh bien, j'ai imaginé à nouveau l'énième Suzanne Doppelt relire de la littérature latine, et dans ce cas-là, ça serait plutôt Petrone et le Satyricon. C'est dans le chapitre 42 où Séleucus renseigne ses amis du fait d'avoir été un enterrement. J'évite la citation, mais à l'intérieur de son discours, on va retrouver, comme Nicolas Ostphal l'a montré, on va retrouver trois proverbes. Hein, Petrone s'amuse à recontextualiser et à réagencer trois proverbes à l'intérieur du même discours. Eh bien, il faut savoir que ces trois proverbes portent sur les images de la bulle, sur les images de la mouche et sur les images de l'outre. Mais ce n'est pas tout autour de cette mouche, parce que la mouche est aussi bien vision, aussi bien mystère, c'est un animal, c'est une vision, je disais, c'est une association qui se fait avec d'autres sujets, dont la bulle, mais c'est tout aussi bien, chez Suzanne Doppelt, un véritable mystère, le mystère qui est au centre d'une enquête. Et ce mystère, je crois, est exemplifié par la mouche posée sur le cartouche dans le tableau de Jacopo de Barbari, autour duquel Suzanne Doppelt a construit, a échafaudé la plus grande aberration. C'est le fameux tableau, c'est le portrait double de Luca Pacioli, sur lequel, je crois, les interprétations et les attributions n'ont pas manqué, et je ne vais pas revenir sur toutes les contributions qui se sont exprimées là-dessus. Mais ce qui est intéressant est de tenter de comprendre, parce qu'il n'y a peut-être rien à comprendre là-dedans, mais pourquoi cette mouche est là, sur ce tableau? Que fait-elle là, cette mouche? dans ce contexte apparemment très sérieux, presque austère, qui ne manque pas de raréfaction, qui a un contexte aussi d'une certaine solennité. Est-elle, par exemple, une marque que Léonard de Vinci, auquel on a attribué le tableau, a utilisé ou aurait utilisé pour faire référence à Ludovic Sforza, dit le mort ? Est-elle une référence plutôt au pouvoir de Ludovic Sforza ? Et pourquoi encore son aile de gauche est transparente, voire blanche ? Pourquoi cache-t-elle cette mouche par l'une de ses pattes intérieures, le dernier chiffre de la date ? Je vais terminer en soulevant quelque chose qui pourrait peut-être rentrer plus directement dans le sujet de ce colloque. Une petite note comme finale autour du dernier livre de Suzanne Doppelt qui s'appelle Métadone. Je crois que là, nous avons une sorte de première fois pour Suzanne Doppelt parce que pour la première fois, exception faite pour cette Lazy Suzy, dont on ne sait pas trop au niveau de la référence, que cette Suzy serait une Suzanne. Est-ce que cette Lazy Suzy est à prendre comme cette table tournante qui permet de distribuer des assaisonnements, enfin. Mais je crois que là, il y a explicitement, pour la première fois, la référence à une présence humaine et sexuée. Alors voilà, je me suis tout de suite penché sur ce livre en le découvrant. Enfin, je l'ai découvert en ayant à l'esprit ce colloque. Je me suis dit, je vais peut-être trouver des traces ou des éléments de lecture intéressants. Mais au bout de la 10e page, je me suis rendu compte que finalement, cette femme, cette donna qui est dans le titre, aurait pu tout aussi bien être un homme. Le cas aurait été d'une plus grande rareté, mais la tarentule peut piquer tout aussi bien des hommes. Et ce que j'ai compris, ce qu'on comprend peut-être au bout d'un certain moment de la lecture, c'est que dans ce titre, ce qui compte, ou en tout cas ce qui se trouve comme être en position principale, est justement cet adverbe « méta », « moitié ». Et je crois que c'est un peu l'entre-deux qui joue le rôle de sujet interrogé dans ce livre. C'est la notion d'hybridation et de transformation incessante. C'est à nouveau peut-être l'une des manifestations de la mécanique qui intéresse à nouveau Suzanne Doppelt. Autrement dit, et je termine là, si les questions de sexe et de genre chez Doppelt, c'est leur mélange qui frappe plus que leur singularité et leur spécificité. Ce qui demeure tout à fait central et problématique dans le travail de Doppelt, même dans ce métadone, me semble être, pour le dire avec des mots tirés de Vague Spectra, c'est cette sourde animation où un règne passe dans l'autre, car rien n'est jamais au repos dans le travail de Doppelt. Merci.
Merci beaucoup, Luigi. Je vous propose que nous écoutions Abigail Lang tout de suite et que les intervenantes puissent échanger et répondre aux questions après, surtout qu'il s'agit des poètes dont le travail est très lié entre eux aussi. Je présente donc Abigail Lang, maîtresse de conférences habilitée en littérature américaine et traduction à l'Université de Paris. Elle est membre de l'équipe de recherche LARCA. Avec Vincent Broquet et Olivier Brossard, elle anime le collectif Double Change qui organise des lectures bilingues franco-américaines de poésie. Et elle participe aussi en tant qu'organisatrice au groupe de recherche Poets and Critics, également sur la poésie américaine. Avec Michel Murat, elle porte le projet Archives sonores de la poésie. Et juste pour donner quelques titres de ses derniers travaux, en collaboration, elle a publié un volume sur Emmanuel Occar et sur les archives sonores de la poésie tout récemment. Et je mentionnerai aussi son livre sur les liens entre les champs poétiques français et états-uniens qui vient de sortir, La conversation transatlantique, échange franco-américain en poésie depuis 1968, que je vous recommande beaucoup. Je voudrais mentionner également qu'elle mène un travail très important de traductrice de la poésie américaine. Seule ou en collaboration, elle a traduit de nombreux livres dont je voudrais mentionner juste quelques poètes américaines. Lynn Hedgenian, Rosemary Waldrop, Caroline Bergwald, que nous allons écouter ce soir, Tracy Morrison et Talia Field, parmi les nombreux poètes, ce sont les femmes que Abigail Long a traduites. Et avec la dernière autrice que j'ai mentionnée, Talia Field, Abigail Long a également coécrit des livres. Et donc, nous allons l'écouter maintenant. Avec sa communication intitulée « Dire la poésie au féminin ».
Merci beaucoup, Sophia. Et merci à toutes les organisatrices. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation, pour le colloque festival hors norme et extrêmement riche. Je dois aussi des excuses, alors encore une fois aux organisatrices, mais aussi à Luigi et à Anne Portugal, ce n'est que partie remise, à qui je devais initialement consacrer ma communication en 2020. D'avoir intempestivement changé de sujet et ainsi mis à mal la cohérence du panel. Donc, excusez-moi sincèrement, donc, j'avais l'accord de l'ENAIG. Alors, parce que je tente actuellement de prendre en compte les lectures publiques et les archives sonores de poésie dans ma recherche, j'ai voulu me demander s'il était possible de mettre au jour des manières caractéristiques de dire la poésie à haute voix chez les poètes femmes. Il ne s'agit pas d'adopter une approche essentialiste, mais de voir comment l'exclusion traditionnelle des femmes de l'espace public se marquent dans leur façon de prendre la parole. Il faut commencer par rappeler une évidence. Dire la poésie est une pratique, elle s'acquiert, consciemment ou non. Les poètes façonnent leur voix et leur posture à partir d'un certain nombre de modèles à leur disposition, qu'ils trouvent chez d'autres poètes, bien sûr, mais aussi dans d'autres pratiques d'oralisation, politique, religion, médias. Chris Mustala fait l'hypothèse que les deux grandes polarités de la diction poétique contemporaine aux États-Unis trouvent leur origine dans les deux lieux d'enregistrement de la voix au seuil du XXe siècle. D'une part, les laboratoires de phonétique expérimentale qui encouragent une diction neutre, académique, modelée sur l'objectivité scientifique. D'autre part, les compagnies de disques intégrant quelques poètes dans leur collection de variétés qui encouragent une diction plus spectaculaire. Alors peut-on, adoptant cette même approche historique et culturelle, mettre au jour des modèles ou des styles vocaux privilégiés par les poètes femmes ? Des lignées vocales ? Peut-on faire apparaître des stratégies de présentation de soi ? Y a-t-il des lieux, des médias privilégiés par les poétesses ? Alors, il est impossible de répondre aujourd'hui, mais ce sont là des questions à garder en tête au moment où les recherches sur ces objets se formalisent. D'autres disciplines peuvent nous fournir des pistes. L'histoire, avec en France les travaux pionniers de Michel Perrault, qui rappellent que le silence est un commandement réitéré aux femmes à travers les siècles par les religions, les systèmes politiques et les manuels de savoir-vivre. La sociologie, Anne Karff rappelle à quel point la voix humaine est saturée de croyances sociales et dans le chapitre qu'elle consacre aux voix masculines et féminines, elle fait une liste édifiante de tous les stéréotypes associés aux voix de femmes, depuis le Talmud jusqu'au laryngologue, en passant par l'exclusion initiale des femmes de la radiodiffusion, au motif que leur voix serait monotone, pas assez puissante, pas assez impersonnelle, pas assez autoritaire et, selon les laboratoires Bell, mal convertible en impulsion électrique. Dans un numéro récent de la revue Feminist Media Histories, deux historiennes des médias notent aussi que ce sont avant tout les voix des femmes qui ont été marginalisées par la technologie, alors que le corps des femmes, lui, a été largement exhibé à l'image en tant qu'objet de désir. Dans un article de 2018 déploie les ressources des humanités numériques pour quantifier le phénomène de la « poet voice », la voix du poète, en analysant un corpus de 100 poètes américains contemporains, ainsi qu'un corpus témoin de locuteurs en conversation. Le terme « poet voice » est apparu récemment pour désigner un cliché vocal employé par une majorité de poètes mainstream se tenant à l'écart de la performance. MacArthur définit la poet voice comme une incantation monotone, caractérisée par des intonations descendantes, l'effacement de l'affect et la lenteur du débit. C'est l'approche intersectionnelle combinant genre, race et génération qui apporte les résultats les plus tranchés et les plus éloquents de leur étude. La diction la plus dynamique et celle des poètes africaines-américaines nées avant 1960, typiquement celle des poétesses associées au Black Arts Movement, par exemple Sonia Sanchez. La diction la moins dynamique de toutes est celle des poètes femmes africaines-américaines nées après 1960, considérées comme mainstream, très reconnues par l'institution et typiquement invitées à lire sur les campus devant des auditoires majoritairement blancs, par exemple Claudia Rankine. Le corpus demande à être élargi, les critères à être précisés, mais ses premiers résultats semblent avérer des effets de conformisme vocal et des phénomènes de cooptation fondés sur le style vocal. La question ne s'oppose pas qu'en poésie, mais aussi avec d'autres enjeux en politique, et je remercie Patrick Berard-Valdois de m'avoir signalé cette tribune écrite par Clémentine Autain et signée par une dizaine de conseillères et députées, qui pose la question des codes de prise de parole publique pour les femmes. Faut-il épouser les normes masculines ou rester féminine dans un monde qui valorise le masculin? Comment inventer un nouveau genre? Pas simple. Les problèmes de gestuelle ou de voix sont récurrents pour les femmes. N'étant pas encore en mesure de formuler des hypothèses nettes, c'est un peu à l'aveugle que je conduirai deux brèves analyses exploratoires. Après d'innombrables tentations et enthousiasmes, j'ai choisi deux poétesses états-uniennes ayant connu une grande célébrité de leur vivant, si bien qu'elles ont incarné aux yeux et aux oreilles d'un large public la figure de la poétesse, correspondant à un horizon d'attente, mais contribuant aussi peut-être à le modifier. Alors, Edna St. Vincent Millay est emblématique d'un changement de pratique de la poésie à haute voix qui a lieu dans les années 20, quand on passe de l'art de la récitation, auquel se livrent les élèves à l'école et les amateurs dans des salons ou des clubs, à la lecture publique par le poète lui-même. Donc d'un art de la récitation à une performance de l'auctorialité, résume Leslie Wheeler. Millet a été formé à l'art de l'élocution qui connaît un dernier sursaut dans les années 1870 et qui s'est ouvert aux femmes au 19e siècle. Mais elle comprend aussi le star system qui naît avec Hollywood. C'est une des raisons de son succès, il y en a d'autres. Elle aborde des sujets nouveaux dans des formes reconnaissables et valorisées. Publié en 1920, l'année où les Américaines obtiennent le droit de vote, son premier recueil, A Few Figs from Thistles, quelques figues tirées des chardons, aborde très explicitement la sexualité féminine. Son poème Menses est un des premiers à parler ouvertement du syndrome prémenstruel. Avec ses cheveux courts, elle incarne la New Woman, la nouvelle femme émancipée qui prend position. Millet s'engage notoirement pour Sacco et Vanzetti et pour l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne nazie. C'est aussi une célébrité dont on suit les frasques. Relation lesbienne, ménage à trois, relation avec un homme de 20 ans son cadet. Ses poèmes célèbrent la déambulation dans la ville, l'amour libre, le désir féminin. Toutes ces raisons se combinent sur scène, lors de tournées à succès, dont on peut se faire une idée par les comptes rendus dans la presse. Tous décrivent ses tenues, ses longues robes de lourde soie crémeuse, ses cheveux comme une torche de feu. Tous notent qu'elle adopte des rôles différents selon les poèmes, modifiant sa gestuelle pour incarner des personnages, passant, dit un journaliste, de la princesse à la femme de mauvaise vie, par le jeu d'un sourcil ou une moue. Tous s'étonnent de cette voix puissante émanant d'un corps si menu. Tous louent sa voix enchanteresse, son charme, ses cadences incantatoires qui subjuguent les spectateurs et agissent comme une drogue subtile. Clairement, la poétesse appartient à la famille des sirènes et autres femmes fatales. Ces descriptions impliquent une forte théâtralité, dans le jeu comme dans la voix, que confirme son refus de tout système de sonorisation sur scène. Pourtant, et c'est une autre raison de son succès, Millet sait se servir des nouveaux médias, et la réciproque est vraie. Elle donne de nombreux récitals radiophoniques en 1932, et on sait, par 1500 courriers d'auditeurs, qu'ils furent nombreux à acquérir un poste rien que pour l'entendre. Beaucoup disent qu'ils ont eu le sentiment qu'elle s'adressait directement à eux, confirmant le sentiment d'intimité que crée le médium radiophonique. « Vous nous avez attirés très près de vous », écrit une auditrice. D'autres insistent sur sa manière naturelle. « Surtout, surtout ne changez jamais, ne devenez jamais raide, formelle ou éloquente. Vous êtes si authentique, si naturelle, si vivante. » Est-ce ainsi que vous allez l'entendre? Rien n'est moins sûr. Le naturel est culturellement construit, c'est une convention. Et les signifiants de l'authenticité ont changé.
I shall forget you presently, my dear. So make the most of this, your little day, your little month, your little half a year, ere I forget, or die, or move away, and we are done forever. By and by, I shall forget you, as I said. But now, if you entreat me with your loveliest lie, I will protest you with my favorite vow. I would indeed that love were longer lived, and oaths were not so brittle as they are. But so it is. And nature has contrived to struggle on without a break thus far. Whether or not we find what we are seeking is idle, biologically speaking.
Que venons-nous d'entendre? Une voix éduquée, un exemple de mid-Atlantic English, un anglais parlé au début du 19e siècle aux États-Unis par les élites et dans l'industrie du divertissement, créé de toutes pièces pour combiner le meilleur de l'anglais britannique et américain à une époque de grande inquiétude quant à l'abattardissement de l'anglais sous l'effet de l'immigration. La radio, notamment, était vue comme un moyen de standardiser l'anglais. Une diction d'une grande clarté qui porte pleinement le sens. Une sorte de monologue, le ton de la conversation théâtralisée. Un passage de relais entre deux styles vocaux, de l'art oratoire à l'intimité radiophonique. Beaucoup de force de caractère et de détermination. D'autres poèmes sont comme des mélopées avec vibrato et trémolo, ils nous sont devenus plus difficilement accessibles. Un sonnet shakespearien, mais Millet fait moins entendre le pentamètre iambique que la syntaxe et l'argumentation. Un trait d'humour, je crois, lorsqu'elle prononce « by and by » en deux syllabes, « bye bye ». À haute voix, on entend la récurrence des « I » ouverts, du « I » initial au « biologically » final, qui met en valeur le tour de force du dernier vers avec son adverbe pentasyllabique que Millet prononce de la manière la plus conversationnelle qui soit. Que dit le poème ? Parce qu'elle l'oubliera bien vite, elle enjoint à son amant de profiter du peu de temps qu'ils ont à passer ensemble, de lui dire son plus beau mensonge, auquel elle répondra par son serment favori. Elle regrette le caractère éphémère de l'amour, mais constate qu'il n'empêche en rien la nature d'arriver à ses fins et la vie à se perpétuer. Ici, c'est la locutrice qui exhibe un esprit traditionnellement codé comme masculin, pragmatique, scientifique, philosophe. Et c'est le destinataire masculin, réduit au silence, qui apparaît en proie à l'angoisse de l'abandon. On a là donc un bel exemple de réappropriation du genre poétique. Millet a composé un grand nombre de sonnets, elle y exprime les vicissitudes du désir féminin, loue la beauté masculine, se confronte à la peur du rejet, de l'âge et de la solitude, citant parfois verbatim des bribes célèbres à un pronom près, quand je serai bien vieille. Car au-delà de cet amant-là, c'est au sonnet de la Renaissance et à la tradition lyrique que répond Millet, en donnant le point de vue de la femme et la parole à l'éternel destinataire. Alors, sans transition, je passe à ma deuxième analyse. Il me semble qu'il n'est pas utile de présenter longuement Anne Sexton ici, dans la mesure où elle est une des poètes américaines de l'après-guerre les plus largement connues, avec Sylvia Plath, par sa poésie et par sa fin tragique, son suicide. Elle est une figure clé de la poésie dite confessionnelle, qui apparaît aux États-Unis en 1959 et cherche à opérer ce que Robert Lowell appelle un retour à la vie, a breakthrough back to life, contre le formalisme de l'académie, contre le conformisme de la société. En 62, Sexton écrit « Le test ultime d'un poème se fait lors d'une lecture publique. J'ai beau avoir lu ce poème très souvent sur scène, son impact sur moi reste fort et tout à fait personnel. Je m'y laisse prendre une fois de plus. Lorsque j'arrive au dernier vers, ma voix commence à se briser et moi, qui suis toujours le poète public, je deviens le poète privé qui a écrit ce poème. Ce qui est testé en lecture, c'est la capacité du poème à redonner accès à la scène d'écriture et aux sentiments originaires. La voix qui se casse en est le signe, gage d'authenticité et d'accès à l'intimité. Mais 10 ans plus tard, quand la lecture publique est devenue pour elle un freak show, une foire où l'on vient voir des monstres, la fêlure vocale est devenue le symptôme du voyeurisme de l'auditoire. Certains dans la salle espèrent secrètement que ta voix va trembler. Ça ajoute un peu de piment. Je n'ai pas trouvé en ligne d'enregistrement où on entend ainsi la voix de Sexton qui se casse, mais la même dramatisation de l'accès à l'intime est à l'œuvre dans les très beaux documentaire que lui consacre en 1966 Richard O. Moore, qu'Olivier Brossard a rendu accessible sur Pensound. Je vais vous en montrer la première minute. Alors, je suis obligée de...
Her kind. I have gone out, a possessed witch, haunting the black air, braver at night, dreaming evil. I have done my hitch over the plain houses, light by light.
lonely thing, 12-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman quite. I have been her kind. I have found the warm caves in the woods, filled them with skillets, carvings, shelves, closets, silks, innumerable goods, fixed the suppers for the worms and the elves, whining, rearranging the disaligned. A woman like that is misunderstood. I have been her kind. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots, survivor, where your flames still bite my thigh, and my ribs crack where your wheels whine. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind.
Alors, qu'avons-nous entendu et vu cette fois-ci? Exposées, elles sont d'abord jugées par le regard, sexualisées avant même d'être entendues, dit l'historienne Christine Bard des femmes dans l'espace public. Et sans doute regardons-nous Sexton avant de l'écouter, d'autant que le film commence par un plan très serré, volontairement invasif, comme pour signifier la dialectique de l'exposition de soi et de l'intimité inaccessible qui est au cœur de la poésie confessionnelle. Sexton lit à la fois avec un mélange de conviction et de nonchalance. Le texte est moins porté que chez Millet, mais plus modulé que dans la Poet Voice. Sexton commence chaque strophe avec détermination, puis ralentit au milieu, prend un ton rêveur, une voix gutturale, peut-être sexy, par exemple pour dire « light by light ». Elle lit le refrain plus lentement, avec un temps de réflexion avant le dernier vers, où elle se définit. Sexton Lee Her Kind, un de ses poèmes les plus emblématiques, où elle s'apparente successivement à une sorcière solitaire, à une mère de famille pervertie qui prend soin des vers et des elfes dans les bois, et dans la troisième strophe, soit à une femme adultère, soit à Jeanne d'Arc, emportée dans une charrette et gesticulante. C'est le poème que lisait Sexton en ouverture de toutes ses lectures publiques, comme un rituel, à la fois une manière de se présenter dans toute sa monstruosité, dit-elle. Et elle rapporte que la femme du directeur du département d'anglais à Harvard a quitté ostensiblement la salle lors de sa lecture à Harvard. Et une manière aussi de tracer un cercle de sorcières, de constituer un public par cette première adresse. En faisant le même choix, le documentaire nous invite dans le cercle de l'intimité. Parce qu'il filme la poète chez elle, dans une banlieue résidentielle du Massachusetts, avec sa pelouse et sa piscine, avec son mari qui rentre du travail et qui est accueilli par le chien, avec ses enfants qui partent en summer camp l'été. Le documentaire montre, sans jamais avoir à le dire, il n'y a pas de voix off, ce qui sous-tend la poésie de Sexton et fait que tant de femmes de sa génération se sont reconnues en elle. Car ce qu'on voit de bout en bout, c'est le problème qui n'a pas de nom. Pour reprendre l'expression devenue célèbre de Betty Friedan dans son livre « The Feminine Mystique », paru en 1963, un texte clé de la deuxième vague féministe. Le problème qui n'a pas de nom, c'est l'incompréhensible tristesse désœuvrée des femmes blanches de la classe moyenne qui ont pourtant tout pour être heureuses, mari, enfant, maison individuelle, accès aux biens de consommation. Avec ses ongles impeccablement vernis, les trois tenues blanches qu'elle alterne au cours du documentaire, ses propos sur la manière de concilier écriture et domesticité, et la piscine qu'elle a, dit-on, financée grâce à une bourse Guggenheim, Sexton endosse l'image de la parfaite maîtresse de maison. Mais la crise psychotique qu'elle raconte d'emblée, son armoire à pharmacie pleine de neuroleptiques et la figure de la sorcière et de la mère dénaturée montrent que le vernis craque de toutes parts. Son regard en coin, son sourire complice quand elle lit « Her Kind » semble dire qu'elle n'est pas dupe. Sa voix, elle, ne se casse à aucun moment dans le film. Mais comme pour pallier ce défaut d'authenticité, il y a une scène où Sexton laisse couler ses larmes en écoutant la suite numéro 5 de la Bacchanas Brasileiras de Villa-Lobos et déplore que les mots que lui donne sa machine à écrire ne parviennent pas à la toucher aussi profondément que la voix chantante. Du moins, elle dit qu'elle pleure, mais la caméra s'efforce en vain de filmer ses larmes. Est-ce à dire qu'elle feint ? À l'époque, la critique s'est beaucoup attachée à distinguer la vérité de la fiction dans la poésie confessionnelle. Mais de notre point de vue actuel, je crois, cela ne semble plus l'enjeu. Et si c'est une mise en scène, elle sonne juste. Dans notre moment post-butlerien, il n'y a plus de moi profond à révéler, mais seulement des performances du moi, des effeuillages successifs. Ces gestes de mise à nu qui donnaient un parfum de scandale à la poésie confessionnelle dans les années 60 sont devenus les moments d'une quête sans fin d'authenticité. C'est en tout cas ce qu'avance Christopher Grobe dans un livre récent, où il fait de la poésie confessionnelle la source d'une tradition de la performance de soi qui se perpétue dans l'art de la performance et le stand-up des années 70, dans la télé-réalité des années 90 et dans les formes actuelles de l'exposition de soi. Voilà pour la forme. Pour le contenu, la traduction récente de l'essai de Jan Clausen, A Movement of Poets, nous rappelle le rôle qu'a joué la poésie dans la deuxième vague féministe et notamment comment elle a permis à d'innombrables femmes de témoigner de leur expérience, de raconter leur histoire, de prendre conscience que le personnel est politique, comme elle le faisait aussi oralement dans des groupes de conscientisation. Et elle mentionne Sexton, qui, sans être féministe, apparaissait comme, je cite Clausen, une poète extrêmement influente de la colère et de la victimisation féminine. Et ce matin, Kiemis disait combien la poésie lui était apparue comme le genre le plus adéquat pour exprimer une rage qui bouillonne. En ce sens-là, Sexton anticipe le mouvement, les mouvements de giving voice, de coming to voice des féministes des années 70. La voix est une métaphore constante du mouvement chez Carol Gilligan, In a Different Voice, chez Bell Hooks, Talking Back. Alors Sexton serait plutôt du côté du giving voice, donner voix à, Millet, avec sa réappropriation de la tradition lyrique, plutôt du côté du talking back, répondre à, c'est une piste à creuser. Alors, quelques remarques de conclusion. Une remarque méthodologique d'abord. Il est difficile de zoomer sur la voix seule. Il m'a fallu prendre en compte le poème, la poète, le contexte littéraire, historique, médial, avec pour conséquence que la voix acoustique n'est plus qu'un élément d'un ensemble. C'est la voix au sens large que j'ai considérée, en prenant aussi en compte une énonciation, un style, un ethos, une façon de se présenter. Sans surprise, le corps éclipse la voix, de façon bien plus massive pour les poétesses que pour les poètes. C'est patent dans la description systématique de leur tenue, dans les comptes rendus, chez Sexton aussi bien que Millet. C'est évidemment lié à leur célébrité au-delà du cercle habituel de la poésie et à leur dimension médiagénique. Un corpus de poétesse marginale aurait donné un résultat différent, mais jusqu'à un certain point seulement, je crois. Sans surprise également, on retrouve les deux polarités évoquées par Clémentine Autain, ou bien adopter les codes masculins, ou bien jouer des codes féminins. Millet adopte une voix forte, pleine de maîtrise et d'autorité, traditionnellement codée comme masculine. Sexton opère à chaque strophe un mouvement de retrait progressif, employant ponctuellement un grain plus rêveur ou sexy, et laissant parfois transparaître au cours de lecture publique ses failles vocales. Elle n'est pas la seule. Allen Ginsberg avait fini, dit-on, sa première lecture publique en larmes. Alors, ces deux coups de sonde exploratoires ne m'ont pas permis de mettre au jour d'hypothèses fortes. Sans doute faut-il faire un travail plus fin et de plus longue haleine, avoir la chance de tomber sur des textes témoignant d'une réflexion concertée sur la prise de parole publique, qui sont rares. Si vous avez des pistes, je suis preneuse. Donc, j'arrête là, c'est une réflexion à poursuivre. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Abigail. Et désolée, je n'ai pas été prévenue du changement de sujet, donc c'est pour ça que je n'ai pas bien présenté ton intervention. Maintenant, donc, nous pouvons passer aux questions. Je regarde le document, si nous en avons reçu. J'aurai une question, même si... Donc, Suzanne Doppel est poète et photographe et elle a publié de nombreux livres dans ce dispositif. Et je me demandais ce que tu penses du rôle des photographies dans la mécanique de ces livres. Il faut allumer le micro.
Oui, merci pour ta question, Jofia. C'est un sujet vraiment intéressant ce que tu évoques là et vraiment très particulièrement, je dirais, rétif aux commentaires, à la reprise. Dans la mesure où Suzanne Doppelt utilise systématiquement des formats photographiques qui sont très petits, elle retravaille beaucoup la texture, le grain des photographies qui souvent sont des produits de superposition, de tirage et retirage. Et donc, la mécanique là-dedans, je l'ai peut-être évoquée par un biais tout à fait simple, celui de la représentation, par exemple, voilà, des bulles et des ballons. Mais il faudrait se questionner voilà, sur la présence de ces photographies où ce ne sont que des textures ou des grilles qui sont présentées ou des choses font référence, mais dans le plus complet floutage. Voilà. C'est une interrogation qui reste à faire, mais c'est une piste tout à fait pertinente et intéressante.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que a souligné que son dernier livre, Metadona, comporte dans le titre le mot donna, mais les figures humaines sont peu présentes dans ces textes, et c'est vrai pour les photographies aussi, où on peut voir parfois des figures humaines dessinées, mais pas de photographies de personnes.
Il faut dire que voilà, à un moment donné, il y a parmi les balises, il y a aussi la main qui apparaît et qui revient. Ce n'est pas peut-être un motif majeur, mais et puis une seule fois, je crois, je ne me souviens plus dans quel livre, c'est dans les tout premiers, où Suzanne de Pelt se met en scène elle-même dans des autoportraits. Ou des portraits que quelqu'un aurait fait, je ne sais plus tellement dire, mais voilà, il y a une fois où, tout comme dans des passages de Lazy Suzy, avec ce Suzy, Suzanne, parfois il y a des descriptions de la nature, et très souvent cette nature revient avec le pronom « elle », et parfois on est un peu, non pas perdu, mais enfin ce sont les plans du tressage qui… Et ce « elle », à un moment donné, le lecteur peut le suivre comme un espèce de personnage qui exprime ses préférences. Hein, parce que ce sont des phrases où « elle aime ceci, elle aime cela ». Voilà. Je ne sais pas si… Voilà.
Nous avons reçu une question par YouTube pour Luigi, toi encore, de Jean-François Puff. Luigi, penses-tu que le travail de Suzanne de Pelt dissout en quelque sorte la question du genre ?
Je crois même que, enfin oui, je dirais même que ça l'aggrave dans la mesure où elle ne l'évoque pas. Et quand elle l'évoque, le genre ne se pose pas dans la façon où c'est quelque chose qui, dès le départ, est quelque chose de totalement hybride, dans lequel tout peut, disons, arriver, advenir et… je crois que cette poésie, voilà, c'est la voix d'une poète ou d'une poétesse ou d'une femme poète ou d'une poète femme qui écrit avec ces questions-là qui seraient quelque part mais qui ne sont pas centrales chez elle. Voilà. Est-ce qu'il y a dissolution? Est-ce qu'il y a une sorte de solubilité? Est-ce qu'il y a évacuation de la question
Oui, Léna, il y a une question, peut-être c'est le temps.
Non, c'était pas vraiment, c'était juste pour rebondir sur cette question, et notamment, donc merci beaucoup pour cette présentation, Luigi Magno, et ça me faisait penser notamment dans Metadona, dans le dernier livre donc, de Suzanne de Pelt, où en fait la question n'est pas vraiment, enfin j'ai l'impression, n'est pas vraiment celle de la différence entre homme et femme, mais davantage celle de la différence entre finalement être humain et animal. Et justement, il y a aussi là une sorte de refus de garder ce binarisme-là, puisque justement tout le livre travaille le fait que les humains se font araigner dans cette danse qu'est la danse de la tarentelle. Donc je trouve ça assez intéressant justement cette question que Jean-François a pu évoquer à travers l'idée d'une dissolution, ou en tout cas du refus d'un binarisme, en tout cas explicite.
Oui, mais alors là, voilà, la dissolution se fait par rapport à quoi, enfin, au genre, au sexe, au trait de l'humanité. Enfin, comment entendre voilà, cette moitié qui est bien évidemment la moitié homme-animal, ou qui est une moitié de deux êtres animés, parce que voilà, il y a aussi l'animé qui passe dans l'inanimé et vice-versa. Et voilà, la question est là, quelque part, effectivement, elle n'est pas totalement ignorée, mais comment la reposer J'ai refait voilà, une lecture des livres de Suzanne de Pelt dans cette perspective, mais voilà, je suis arrivé à des notes où finalement je me suis rendu compte la question était un peu Alors, tout ça était un peu, peut-être un porte-à-faux, mais pas nécessairement, parce que, voilà, on pourrait dire tout aussi bien que Suzanne de Pelt fait entendre une voix qui ne questionne pas les questions qui occupent particulièrement ce colloque. Voilà.
Oui, c'est en tout cas une position existante, légitime, qui fait partie des positions possibles que des poètes qui sont des femmes peuvent prendre. Je me demandais si Suzanne de Pelt éventuellement souhaitait d'intervenir. Sinon, notre temps avance beaucoup, donc je vous proposerai de passer des questions destinées à Abigail. Donc, si jamais Suzanne ne souhaite pas ajouter quelque chose.
Vous m'entendez là?
Oui.
Non, je ne vais rien ajouter. J'en suis incapable, hein, mais je veux vraiment remercier Luigi Magno, voilà, et Abigail, parce que vous avez été tous les deux formidables.
Merci Suzanne.
Merci beaucoup Suzanne. Est-ce que donc si j'ai bien, vous nous avez reçu une question pour Abigail Long. Avez-vous comparé pour une même poète des exemples de diction en lecture publique d'un côté et de diction radiophonique de l'autre? Au-delà de la différence des contextes, l'importance de l'image et de la sexualisation de l'image des femmes induit-elle des lectures différentes quand le corps n'est pas exhibé ou simplement visible?
Non, je n'ai pas comparé même poète ou un même poète en lecture publique et en diction radiophonique. Voilà, j'ai aussi écouté Sexton en public, mais là, j'ai rien de très précis à en dire. Enfin, la qualité est différente, l'ambiance est différente. Après, quand on a lu le même poète, quand les poètes ont lu le même poème un grand nombre de fois, souvent ils arrivent à une diction qui est un peu figée. Ou pas, hein, mais ça arrive. Et pour l'image, ben là, pour la deuxième question, je peux vous renvoyer la question. C'est-à-dire que comme il y a eu un problème, j'ai mal partagé mon écran, vous avez d'abord entendu avant de voir. Alors que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fini par... De toute façon, pour écouter, pour commenter un poème dit à haute voix, il faut l'écouter un grand nombre de fois, donc c'est très difficile pour vous, voilà, en l'écoutant juste une fois comme ça. Mais moi, je l'ai d'abord vu, et au début, j'ai vu avant d'entendre, donc j'ai dû couper l'image pour aussi, quand j'ai essayé de commenter sa voix, j'ai suivi avec le poème, et j'ai évidemment coupé l'image, parce qu'autrement, c'est particulièrement fort pour les femmes, mais même pour un homme poète, on va d'abord regarder, et ça détourne notre attention, ou ça fragmente notre attention, on écoute moins, différemment, on va plus regarder, donc vraiment pour se concentrer sur la prosodie, la façon de dire, les accentuations, il faut couper l'image, ouais. il faut faire les deux.
Oui, et en fait, par rapport au documentaire, je me demandais si Anne Sexton a pu s'exprimer sur la manière dont elle était filmée, parce que on voit la caméra qui s'approche de très près à son visage, on voit sur un gros plan sa bouche, et je trouvais que c'était quand même intéressant de voir ça comme représentation des femmes qui sont objectivées aussi comme par ce documentaire en ce cas.
Alors Richard Roux, il a filmé aussi des hommes poètes et il utilise aussi sa caméra de différentes façons. Elle a entériné le documentaire, c'est-à-dire ta question c'était quoi, si elle était d'accord, c'est ça?
Oui, ou si elle savait de quelle manière elle a filmé.
Si elle savait, en tout cas, elle a donné...
Si elle pouvait avoir une opinion. Enfin...
Je ne sais pas si elle a dit quelque chose de ce film, mais en tout cas, elle a été d'accord de qu'il soit publié. Moi, je ne les ai pas tous regardés en entier, mais je suis assez admirative du travail de Richard Remour que m'a fait connaître Olivier Brossard, et qui, maintenant tous les films sont sur Pensound. Il était poète lui-même, poète anarchiste, Il a travaillé, donc il a fait ses films. C'est totalement voix off, c'est principalement des lectures. Ce n'est pas très facile de montrer la poésie à la télévision. Donc il n'y a que le poète qui parle, pas de voix off, principalement des lectures de textes et un montage. Alors effectivement, ça date des années 60. On peut avoir l'impression qu'il y a une sexualisation du corps de la femme. Après, ça joue aussi, c'est ce que j'ai dit, du confessionnalisme. C'est-à-dire que Sexton, elle joue aussi avec ça. Enfin, c'est-à-dire, moi, à un moment, quand la caméra zoom arrière, j'ai aussi l'impression que c'est une façon de dire que, on a beau se rapprocher, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Enfin, on ne peut pas arriver à la fin du. Donc, mais oui, après, c'est n'y échappe pas. Enfin, c'est ce que dit encore Clémentine Autain. Enfin, on voit d'abord le corps.
Oui, et après, par exemple, Benoît ou Claire a ajouté qu'il trouvait qu'Anne Sexton jouait avec la caméra, avec son regard. Je pense qu'il faudrait que notre discussion s'arrête là, dans les commentaires sur le Framapad et dans le chat du Zoom. Vous trouverez des commentaires très intéressants encore à considérer par rapport à vos deux interventions. Mais malheureusement, le temps est fini, donc je vous remercie beaucoup.
Merci pour les commentaires, effectivement.
Oui, moi aussi, je les découvre là, à l'instant.
J'ai mis dans le chat le lien vers la page Prensound où sont tous ces documentaires. Le réalisateur, c'est Moore, M-2-O-R-E. Si vous tapez Anne Sexton, Moore, vous allez tomber dessus. Merci beaucoup, Sophia.
Merci beaucoup, Abigail.
Merci, Sophia. Merci, Abigail. Merci à tout le monde.
Merci, Luigi, aussi.
C'est moi.